Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous débuterons ce journal en Inde, où la Cour suprême vient d'adopter une décision historique ce matin, la dépénalisation de l'homosexualité.
Direction également les États-Unis avec une tribune explosive publiée dans les colonnes du New York Times.
Une tribune dans laquelle un haut dirigeant de l'administration, sous couvert d'anonymat, explique comment il s'efforce au quotidien de lutter de l'intérieur contre les pires penchants de Donald Trump.
Rien ne va plus entre Londres et Moscou.
Après que Theresa May a désigné hier deux suspects, deux agents du renseignement militaire russe dans l'empoisonnement de Sergueï Skripal, et face au démenti de la Russie, le ministre britannique de la Sécurité a prévenu ce matin, c'est Vladimir Poutine lui-même qui portera en dernier ressort la responsabilité de cette attaque.
Invité de ce journal, Maël de Calan.
Élu dans le Finistère, proche d'Alain Juppé, auteur de La Tentation populiste, l'occasion notamment d'évoquer avec lui le déplacement au Luxembourg aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État français doit y rencontrer ses homologues du Benelux dans la perspective des prochaines européennes et dont tout le monde anticipe qu'elles seront dominées en effet par la montée des nationalismes.
Et puis l'actualité en France avec notamment une nouvelle chute de popularité du couple exécutif Emmanuel Macron et Édouard Philippe, Thomas.
Et de quoi plomber un peu plus encore cette rentrée pour la majorité, sans oublier cette mini-primaire interne au parti La République En Marche dans la perspective de la désignation du nouveau président de l'Assemblée. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
On vient d'évoquer à la fin de la grande table de la culture la radicalité à travers le nationalisme corse. On va rouvrir plus largement la discussion avec notre invité, le sociologue Laurent Bonelli, autour de la radicalisation djihadiste. Enfin, une enquête, un portrait un peu plus précis et détaillé de ceux qui s'engagent pour cette cause.
Merci et à tout à l'heure. Des cris et des larmes de joie, c'est ainsi que la communauté LGBT en Inde a donc célébré aujourd'hui dans la liesse et l'émotion la dépénalisation de l'homosexualité par la Cour suprême. Dans une décision à l'unanimité, les cinq juges de la plus haute instance judiciaire ont considéré illégal un vieil article de loi datant de l'ère coloniale britannique, fruit de la morale victorienne, condamnant les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Et même si dans les faits les poursuites étaient rarissimes, c'est bien un cap historique pour l'égalité des droits qui a été franchi ce matin dans la deuxième nation la plus peuplée au monde. Le reportage à New Delhi de Sébastien Farsi de RFI pour France Culture.
Ses nerfs lâchent soudainement quand la bonne nouvelle tombe et les larmes de bonheur coulent à flot. Ali, un homosexuel de 30 ans, est à genoux sur la pelouse de la Cour suprême. Autour de lui, ses amis le rassurent en lui disant « ça y est, nous sommes en sécurité ». Pour tous, ce moment est historique.
Cela a été un combat si long pour nous tous. Tellement de gens ont souffert à cause de cette loi. Maintenant, au moins, nous pouvons avancer vers plus d'égalité dans ce pays.
Cette loi contre les homosexuels est combattue depuis des années par la communauté. En 2009, une association a réussi à la faire suspendre par la Cour d'appel de Delhi, mais la Cour suprême a annulé cette décision en 2013. Finalement, dans ce jugement de la plus haute cour du pays, cette loi archaïque est déclarée définitivement inconstitutionnelle. Pour Diviani, une jeune militante, c'est le début de la reconnaissance.
Maintenant, nous prévoyons de défiler dans les rues en chantant des chansons homosexuelles, en jouant des musiques de la communauté, pour faire savoir aux gens que nous sommes ici et qu'ils ne peuvent pas nous faire disparaître. Et leur dire tout simplement que nous existons. C'est ainsi que nous allons fêter ce moment.
Un des cinq juges de la Cour suprême a exigé que le gouvernement offre maintenant une large publicité à ce jugement et qu'il commence à former les policiers et les fonctionnaires pour que ces discriminations du quotidien envers les homosexuels cesse. Mais cela prendra du temps dans une société indienne encore largement conservatrice.
Si la publication cette semaine des bonnes pages du prochain livre à paraître de Bob Woodward, Fear, avait déjà fait l'effet d'une bombe, que dire de cette tribune dévastatrice à lire cette fois-ci dans les colonnes du New York Times, rédigée par un haut fonctionnaire de l'administration Trump sous couvert d'anonymat. Elle y décrit le chaos qui règne à la Maison Blanche, dénonce l'incapacité du chef de l'État à diriger le pays, mais plus encore elle révèle ni plus ni moins comment une partie de ses ministres et conseillers luttent de l'intérieur pour contenir le président et combattre ses pires penchants et son amoralité. Alors, au-delà du portrait désastreux du président dressé par ce haut responsable, on notera qu'il est assez rare pour le New York Times de publier ainsi une tribune sous le sceau de l'anonymat, ce qui, plus que jamais, atteste bel et bien d'un véritable divorce aujourd'hui entre la presse américaine et Donald Trump. Je vous propose d'écouter un sujet Dominique Moisy, conseiller spécial à l'IFRI, interrogé par Nadine Epstein.
Il n'y a pas dans l'histoire américaine récente de précédent pour ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, de l'intérieur de l'administration, quelqu'un décrit ce qu'est la menace représentée par le président des États-Unis. Le mal vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est énorme. On peut penser que c'est un très haut fonctionnaire, un ministre, quelqu'un de très proche, qui a pris la plume et qui, par amour de l'Amérique, dit « Attention, le président représente le plus grave danger pour la sécurité du pays qui puisse exister ». Et je crois que l'effet, l'impact est indissociable de ce qui s'est passé il y a quelques jours. C'est les funérailles de John McCain et le contraste entre les discours à la grandeur de l'homme et pendant ce temps-là, le président des États-Unis qui jouait au golf.
Même si l'identité de l'auteur n'est pas connue.
Oui, mais on pense que cet homme ou cette femme s'est montrée très, très courageuse, très, je répète le mot, patriote, dans sa volonté de dénoncer le caractère absolument anormal de la situation actuelle. L'homme qui est à la tête du pays ne se comporte pas comme un président digne de cette fonction. C'est encore une petite pierre qui va contribuer à mobiliser les électeurs contre Donald Trump ou au contraire consolider son camp. En fait, c'est dans moins de 2 mois que nous saurons si cet éditorial a eu un impact ou non.
Le géopolitologue Dominique Moisy, conseiller spécial à l'IFRI, il répondait à Nadine Epstein. Un murmure a parcouru hier toute la Chambre des communes. La première ministre britannique, Theresa May, venait explicitement de nommer 2 agents du renseignement militaire russe comme responsables de la tentative d'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille Julia. En revanche, Moscou ayant de son côté réagi par un simple haussement d'épaule, le ministre britannique de la Sécurité a tenu ce matin à préciser qu'en dernier ressort, c'est bien le président russe lui-même, Vladimir Poutine, qui serait tenu pour responsable de cette attaque. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Londres. Le gouvernement britannique met directement la pression ce matin sur le chef du Kremlin et pour autant, Londres n'annonce pas un nouveau train de sanctions contre la Russie. Pour quelle raison ?
Absolument, c'est vrai, le président russe est pour la première fois directement mis en cause. Theresa May pointait hier la responsabilité du Kremlin. Eh bien, Ben Wallace va un peu plus loin. Le ministre de la Sécurité pointe la responsabilité directe de Vladimir Poutine. En tant que président de la Fédération de Russie, dit-il, il contrôle les finances, il dirige la cellule de renseignement militaire à travers le ministère de la Défense. Et je ne crois pas, dit-il, qu'on puisse dire que Poutine est un laxiste qui ne surveille pas ce qui se passe dans son pays. Les députés conservateurs, eux, sont encore plus acerbes. Il y a eu sans aucun doute une décision de l'État russe dans l'affaire Skripal, explique le président de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des communes. Poutine, dit-il, a commis un acte de guerre en donnant son feu vert à la tentative d'assassinat de l'ancien espion qui a entraîné la mort d'une femme britannique. Pas question, effectivement, pourtant, de représailles brutales. C'est ce qu'expliquent les membres du gouvernement. Ils ne vont pas demander l'extradition des agents secrets russes. Cela ne servirait à rien. La riposte se fera dans les règles, dans le respect de la loi, de manière sophistiquée, explique le responsable de la sécurité britannique. Nous avons déjà fait, explique-t-il, des progrès significatifs dans la lutte contre le blanchiment d'argent qui entre de manière illégale au Royaume-Uni. Et Londres va maintenant demander à l'Union européenne de renforcer discrètement les sanctions vis-à-vis de la Russie en formant des alliances contre Moscou avec d'autres pays du Commonwealth. Les diplomates australiens ont déjà fait savoir qu'ils épauleraient les Britanniques face à une attaque russe qualifiée de dangereuse et délibérée.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Le Japon décidément frappé par une litanie de fléaux cette année après le passage du typhon Jebi, le 21e de cette saison, mais aussi surtout le plus puissant de ces 25 dernières années. Dernière des calamités naturelles à s'abattre sur l'archipel, un séisme de magnitude 6,6 sur l'île d'Hokkaido. Les vues aériennes montrent des montagnes littéralement coupées en deux par d'impressionnants éboulements qui ont arraché tous les arbres et englouti plusieurs maisons. Le bilan s'élève pour l'heure à 9 morts, une trentaine de disparus et des centaines de blessés. Frédéric Charles nous appelle de Tokyo.
La terre continue de trembler dans la région rurale d'Atsumi. Le séisme a coupé en deux plusieurs montagnes, causé des glissements de terrain qui ont rasé une forêt entière et englouti des maisons. Toute l'île d'Hokkaido, proche de la Sibérie, est sans électricité ou presque. La compagnie Hokkaido Electric a dû arrêter d'urgence toutes ses centrales thermiques au moment du séisme, privant la seule centrale nucléaire de l'île, celle de Tomari, d'alimentation électrique extérieure. Pour continuer à refroidir ses réacteurs, à l'arrêt depuis l'accident de Fukushima, la centrale a activé des groupes électrogènes. Selon des experts, la centrale serait construite sur une faille sismique active. La compagnie d'électricité d'Hokkaido ne mentionne pas quand les 3 millions de foyers de l'île auront de nouveau accès à l'électricité.
À la question, les Français sont-ils de vilains réfractaires? Il semble bel et bien que l'on puisse répondre par l'affirmative, à tout le moins, sur un point, la confiance qu'ils portent aujourd'hui à l'exécutif. La dernière enquête d'opinion réalisée par l'IFOP fait état d'une chute vertigineuse cumulée de 10 points en 2 mois. Frédéric Seys, bonjour.
Bonjour Thomas.
La défiance des Français interrogée envers Emmanuel Macron et Édouard Philippe atteint ce mois-ci des sommets, et ce, quelle que soit la couleur politique des sondés.
Oui, alors ce n'est pas une chute inédite, dans la mesure où le chef de l'État avait déjà baissé de 10 points en 2 mois dans le même sondage IFOP fiducial, précisément à la même période de l'an dernier, en juillet et en août. Il était passé de 56 à 46% d'approbation. Le problème, c'est que cette fois, le socle de soutien s'effrite en dessous du tiers des personnes interrogées. 31% disent donc approuver l'action du président de la République. Dans le détail, ce sont les jeunes, 18-24 ans, et les ouvriers qui affirment le plus de défiance. En revanche, pas d'accident industriel chez les retraités, comme on aurait pu s'y attendre après les annonces sur les pensions. Ils soutiennent même un tout petit peu plus Emmanuel Macron que la moyenne, à 32% de confiance. La politique économique du gouvernement, elle, suscite toujours plus d'insatisfaits. 2/3 des sondés ne croient pas ou ne croient plus à son efficacité. Une courte majorité, 54%, estime en revanche que le chef de l'État défend bien les intérêts de la France à l'étranger.
Alors, dans ce contexte difficile, pour reprendre la main, l'exécutif ne peut guère compter que sur le soutien des députés En Marche. Reste à savoir s'ils seront également en ordre, étant entendu que la bataille pour le perchoir de l'Assemblée après le départ de François de Rugy au ministère de la Transition écologique risque de semer la zizanie dans les rangs de l'hémicycle, en particulier avec cette question, Frédéric, quel degré de liberté d'esprit au sein du groupe majoritaire?
Oui, les candidatures sont closes depuis hier soir pour le perchoir, la présidence de l'Assemblée, c'est la 4e fonction de l'État, et ils sont 6 candidats, tout groupe confondu, Mathilde Panot pour la France Insoumise et les élus En Marche, Sandra Motin, Barbara Pompili, Philippe Folliot et Yael Braun-Pivet, cette dernière ayant la particularité d'avoir co-dirigé les débats de la commission d'enquête parlementaire de l'affaire Benalla. Et puis, last but not least, Richard Ferrand, il était jusqu'ici patron du groupe En Marche à l'Assemblée nationale, après avoir été ministre. Vous vous souvenez peut-être qu'il avait dû quitter le gouvernement suite à une enquête de la justice sur des soupçons d'enrichissement, affaire dans laquelle la justice ne s'est pas encore prononcée. Alors le vote pour élire le successeur de François de Rugy au perchoir, ce sera le 12, mercredi prochain. Avant cela, les candidats En Marche se départageront lundi dans une sorte de primaire, et il fait peu de doute chez les députés de la majorité que Richard Ferrand, avec l'appui de l'exécutif, sera désigné. Il n'y a donc pas un suspense majeur. En revanche, le poste de chef de groupe de La République En Marche est plus intéressant. Il serait vacant si Richard Ferrand était élu au perchoir, et s'ouvre ici un casse-tête pour La République En Marche. Qui pour diriger les députés de la majorité, cette majorité très vaste, hétérogène, novice, ce n'est pas un détail. On avait vu des contestations lors de la loi immigration. Ce sera aussi le cas cette année pour l'examen du texte sur la bioéthique, notamment. Le boulot est important, mais ingrat, commente un député. Le nom de Gilles Legendre revient avec insistance, mais peu de candidats de poids jusqu'ici. La majorité manque de cadres expérimentés, et c'est l'une des rançons du large renouvellement opéré en juin 2017.
Merci Frédéric Seys. L'absentéisme au travail est reparti à la hausse en 2017, selon une étude publiée aujourd'hui et portant sur 1,8 million de salariés du privé. Ce baromètre prend en compte les arrêts maladie, mais aussi les absences pour maladies professionnelles, les accidents du travail et les absences injustifiées. Bonjour Anne-Laure Chouin.
Bonjour.
Au total, un salarié du privé est absent un peu plus de 17 jours par an en moyenne.
Et pour tenter d'apporter des solutions à ce phénomène dont le coût est évalué à 25 milliards d'euros par an, Matignon a missionné 2 personnes, le DRH de Safran, Jean-Luc Bérard, et le conseiller maître à la Cour des comptes, Stéphane Cellier, qui devront remettre leurs conclusions avant la fin de l'année. Une mission d'expertise qui se déroule dans le cadre des concertations sur l'assurance chômage et la santé au travail, et dont le but est toujours de maintenir, sinon de réduire, les dépenses liées aux indemnités journalières payées par la Sécurité sociale. Alors, première question, pourquoi les arrêts de travail augmentent-ils? Le cabinet Heming, qui a réalisé cette étude, y voit le révélateur d'un monde du travail où l'on s'épanouit moins, où l'on trouve moins de raisons de se lever tous les matins. Bref, un absentéisme causé en partie par une forme de désengagement. Par ailleurs, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à être arrêtées. Elles sont plus exposées aux postes qui maltraitent la santé. La deuxième cause d'arrêt maladie en France, ce sont les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Quant aux absences dites abusives ou de confort, elles sont, et de loin, elles ne sont pas la cause la plus importante. Deuxième question ensuite, comment y remédier? Le patronat qui a très très peur de devoir financer les indemnités journalières comme l'a proposé ces jours-ci, Édouard Philippe, insiste sur la mise en place renforcée d'outils de prévention au sein de l'entreprise et sur un renforcement également des contrôles de la sécurité sociale. Les PME souhaitent par ailleurs arrêter de prendre en charge les jours de carence. Les syndicats, eux, n'imaginent pas de ne pas étendre le débat sur l'absentéisme aux risques psychosociaux et aux conditions de travail, objectifs trop lourds, manque de reconnaissance, problème de management. La mission mandatée par le Premier ministre devra donc proposer des évolutions avec lesquelles les partenaires sociaux feront ou ne feront pas leur miel.
Anne-Laure Choin, merci. Eux seront-ils absents malgré eux au lendemain de la clôture de la procédure d'admission Parcoursup? Un peu plus de 3000 bacheliers seraient toujours sans affectation. Ce qui n'a pas empêché la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, d'assurer ce matin que la loi sur l'orientation et la réussite des étudiants avait, je cite, « porté ses fruits ». Après le Danemark, après la Finlande et à la veille de rencontrer Angela Merkel à Marseille, Emmanuel Macron est aujourd'hui au Luxembourg avec les dirigeants du Benelux. À 9 mois des élections européennes, dont tout le monde anticipe qu'elles seront dominées par la question migratoire, le chef de l'État suit depuis quelques semaines déjà la même stratégie, jouer les meneurs dans la constitution d'un front progressiste face à la montée des nationalismes. Quentin Dickinson, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Luxembourg. L'agenda chargé d'Emmanuel Macron en Europe est une manière pour lui d'exister dans cette campagne qui constituera son premier vrai test électoral depuis son accession au pouvoir, mais pas seulement. C'est aussi une manière de reprendre la main, étant entendu que sa promesse d'inventer un nouveau parti, une sorte d'En Marche européen, ne pourra pas se concrétiser.
En effet, Emmanuel Macron s'est fait élire sur un programme résolument pro-européen, ce qui a forcé l'admiration de nombre de ses homologues, chefs d'État ou de gouvernement de l'UE. Mais l'effet Macron n'a pas pour autant connu le même succès chez nos voisins. Des contacts ont bien été pris avec nombre de partis centristes, mais il a bien fallu se rendre à l'évidence, on n'allait pas pouvoir créer de toutes pièces des clones de La République En Marche dans d'autres pays européens. Exit aussi l'idée d'une circonscription électorale pan-européenne qui aurait complété les circonscriptions nationales. Alors, en remettant ses ambitions dans ce domaine à plus tard, Emmanuel Macron s'est fixé au fil de sa tournée européenne 3 objectifs. D'abord, rétablir les relations bilatérales avec des pays de l'UE trop longtemps délaissés par la diplomatie française. Ensuite, expliquer et tenter de convaincre ses interlocuteurs du bien fondé et de l'utilité de ses propositions de réforme institutionnelle de l'UE. Enfin, souder une alliance aussi étendue que possible de pays attachés comme la France aux valeurs démocratiques fondamentales de la construction européenne. L'arrière-pensée de ce dernier point est évidemment électorale, puisque dans les faits, la campagne des européennes a déjà commencé. Et depuis peu, l'on y voit un peu plus clair dans le positionnement européen de La République En Marche. Une plateforme commune sera définie avec d'autres partis centristes et libéraux, socle commun qui sera décliné dans chaque pays comme chacun l'entend. Et à l'issue de l'élection, les élus de l'AREM iront siéger dans le groupe de l'Alliance des démocrates et des libéraux. Fin d'un insoutenable suspense.
Merci Quentin Dickinson en direct de Luxembourg. L'invité politique à présent de ce journal, avec nous en studio, Maël Decalan, vice-président de Libre, le mouvement associé à LR, créé par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, élue dans le Finistère, proche d'Alain Juppé, auteur également de La Tentation Populiste aux éditions de l'Observatoire. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et avec moi pour vous interroger, Anne Fauquemberg du service politique de la rédaction. Première question, monsieur Decalan, la montée du populisme est-elle donc inéluctable?
Oui, la thèse de ce livre, c'est que à partir du moment où toutes les raisons pour lesquelles on vote pour les populistes sont structurelles, en pleine expansion et extrêmement complexes à résoudre, leur montée, leur arrivée au pouvoir est à peu près inéluctable. Et la question à laquelle je cherche à répondre, c'est comment bâtir des alternatives non populistes qui seront capables de résister au choc et de reprendre l'initiative pour que cette expérience populiste soit la moins durable et la moins néfaste possible pour notre démocratie.
Une question d'Anne Fauquemberg.
Alors, vous dites effectivement que la montée du populisme ne va pas s'arrêter. Vous actez cet état de fait dans votre livre. Est-ce que ce clivage entre les progressistes et les nationalistes, impulsé par Emmanuel Macron, c'est la solution ?
Non, je ne crois pas. Moi, ce que je cherche à dire dans ce livre, c'est que la réponse au populisme, c'est de régler les problèmes des Français, enfin, ou les problèmes qui se posent aux démocraties qui sont confrontées au populisme. Ça paraît un peu bête de le dire comme ça, mais c'est une réflexion en réalité assez robuste. À chaque fois qu'on se drape dans une forme de croisade idéologique et dans de grands principes, on constate que les populistes continue hein, à remporter des succès. À chaque fois, en revanche, qu'on obtient des résultats sur le plan économique, sur le plan de la gestion des flux migratoires, bon, on pourrait rentrer dans le détail de chacune de ces micro-crises, on obtient des résultats.
Alors, vous êtes critique hein, dans votre livre aussi avec le président de votre parti, Laurent Wauquiez. Vous dites clairement qu'il a glissé vers le populisme, démagogie, simplisme et même mensonge. C'est votre définition, hein, ces trois mots de cette notion de populisme. Alors, vous allez participer ce week-end au séminaire de réflexion d'Alain Juppé à Bordeaux sur le centre droit. Vous êtes pour la création d'une liste autonome de centre droit aux européennes ?
Moi, ce que je cherche à faire avec Valérie Pécresse, c'est de défendre les idées européennes au sein des Républicains. Faire le choix de partir, de créer notre propre parti ou de monter notre propre liste, je crois que ce serait prendre le risque de la marginalisation politique. Créer un nouveau parti, c'est très difficile. Imprimer une nouvelle marque dans l'opinion publique, c'est très difficile. Et le choix qu'on a fait, on est nombreux à l'avoir fait avec Valérie Pécresse, Gérard Larcher, de grandes figures de la vie politique, c'est de reprendre le contrôle de notre parti, en quelque sorte, et de faire en sorte que nos idées, dont on pense qu'elles sont majoritaires dans l'opinion publique à droite, qu'elles sont majoritaires dans l'opinion publique mais minoritaires au sein des Républicains, redeviennent majoritaires dans notre parti.
Alors, quel antidote au populisme, Maëlle de Calland ? Vous citez Rousseau dans votre livre, Le Contrat Social. Une démocratie ne fonctionne que si les citoyens s'impliquent en permanence dans les affaires publiques. Comment réinstiller de la participation pour lutter contre l'essor de l'individualisme ? Est-ce que la droite, puisque vous croyez encore, et c'est ce que vous défendez dans votre livre à ce clivage de droite-gauche, est-ce que la droite à les outils pour réinstiller cette participation politique?
Je pense que tous les partis ont les outils, parce que le populisme aujourd'hui gangrène la droite, mais aussi une partie de la gauche. Je cite l'exemple de Manuel Valls, qui n'est pas un populiste, mais quand il propose, par exemple, d'interdire le salafisme, comme si c'était aussi simple, comme s'il suffisait de prononcer une formule magique pour que les choses adviennent, on verse dans le populisme. À chaque fois qu'on verse, à la fois dans la démagogie, dans le simplisme et dans les faits alternatifs. Donc les outils, ils sont sur la table. Ça fait 2000 ans qu'on réfléchit à la manière de lutter contre la démagogie et le simplisme en politique. Aristote en propose trois. C'est l'éthique. Il faut qu'on ait confiance dans les responsables publics et donc les républicains doivent être absolument irréprochables sur le plan éthique. C'est la raison. Il faut que les responsables politiques puissent être efficaces. Donc ils fondent leur action sur des raisonnements, sur l'esprit critique. Il faut remplacer, comme disait Léo Strauss, l'opinion par la connaissance à chaque fois que c'est possible. Donc l'éthique, la raison et enfin les valeurs. Il faut que les électeurs soient entraînés aussi vers un but auquel ils adhèrent. Je pense que les républicains ont ces outils, encore faut-il qu'ils souhaitent s'en servir. Moi, c'est pour ça que je me bats.
Mais comment ramener les électeurs vers le jeu politique? Comment les intéresser concrètement?
Eh bien, en faisant la démonstration que en France par le passé, en France aujourd'hui, dans beaucoup de démocraties qui nous entourent, il y a des manières de faire de la politique qui obtiennent des résultats, qui réussissent dans la lutte contre le chômage, qui réussissent dans le rétablissement d'une forme de sécurité, d'ordre. On peut faire de la politique de manière efficace, on peut donner du sens à l'action politique. Donc, il faut apporter la preuve par l'exemple. Je crois que c'est comme ça qu'on redonnera confiance et pas au travers de grands discours un peu théoriques.
Très bien. Eh bien, je vous remercie, Maëlle de Calland, vice-président du mouvement libre associé à LR, d'être venu dans ce studio aujourd'hui.
Merci
puis
beaucoup.
Je rappelle le titre donc de votre ouvrage, La tentation populiste, publié aux éditions de l'Observatoire. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui, chargé avec des averses parfois soutenues et orageuses du sud-ouest aux régions de l'est. Les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 19 et 29 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.